Nous allons reprendre notre parcours de l'Évangile de Jean, en particulier la section Jean 13 à 17, l'entretien de Jésus avec ses disciples dans la chambre haute. Jean chapitre 15, tout d'abord, je vais lire les cinq premiers versets. Nous avons déjà vu ce passage il y a un bon moment, mais pour le contexte de notre texte d'aujourd'hui, nous allons lire Jean 15, 1 à 5. Moi, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et maintenant, notre texte pour aujourd'hui, un peu plus loin, au verset 16 et 17, et ce sera en particulier la première partie du verset 16. Mais je lis les deux versets. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Prions notre Dieu. Père céleste, nous t'en prions, bénis la proclamation de ta parole, cette parole qui a été mise par écrit par l'apôtre Jean, sous la direction parfaite de ton Saint-Esprit, qu'elle vienne nous rejoindre aujourd'hui, 2000 ans plus tard, pour nous faire du bien. Que cette parole apostolique puisse produire du fruit dans nos vies, nous réjouir, premièrement, d'appartenir à Jésus-Christ et nous rendre meilleurs pour porter du fruit à ta gloire. Nous te prions, notre Dieu, de nous éclairer par ta parole et ton Esprit Saint, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, comme le temps passe vite, nous sommes déjà rendus à la fin du mois d'août. Nous allons commencer une nouvelle saison d'activité. Les enfants vont bientôt recommencer l'école. Les parents, donc, s'activent. Les enseignants, secrétaires, chauffeuses d'autobus reprennent leur travail. Parmi nous, une sœur vient de commencer ses études au cégep. Une autre s'envolera bientôt vers la Colombie-Britannique pour y travailler dans une école. Un autre frère commence un nouveau travail. D'autres reviennent de vacances et reprennent leur ouvrage. Nos jeunes familles, certaines d'entre elles, ont récemment reçu la bénédiction d'un nouveau bébé. Il faut ensuite apprendre à gérer la bénédiction. En Église, nous reprendrons bientôt nos activités régulières, études bibliques en semaine, enseignement le dimanche, avec bien sûr moniteurs et monitrices qui se dévoueront à enseigner nos enfants, travail en conseil également qui reprend, et nous souhaitons à nos retraités que nous n'oublions pas de beaux défis pour l'automne, soit bénévolat ou autre service utile. Quelles sont nos attentes pour cette nouvelle saison? Quels fruits espérons-nous porter dans notre vocation, dans notre service, dans notre travail? Devrions-nous nous dire, moi, cette année, ça va être un échec sur toute la ligne. Tout ce que je vais entreprendre dans ma famille, dans mes études, au travail, ou à l'église, ou en service, dans un service en église, ça ne va porter aucun fruit. Mais j'espère que vous avez de meilleures attentes. Bien sûr, le péché, la chute, la corruption ont rendu le travail pénible et frustrant Il y a des ronces et des épines dans le jardin. Tous les efforts des humains sont vanité, nous dit l'Ecclésiaste. C'est inutile. Mais, bonne nouvelle, il y a aussi la rédemption en Jésus-Christ. Il y a aussi l'œuvre de l'Esprit. Grâce à lui, grâce au Christ notre Sauveur et à son Esprit Saint, nous porterons un fruit nouveau et excellent. Unis à Jésus par la foi, nous pourrons dire « Oui, je crois vraiment que mes études, mon service, mon travail seront productifs d'une manière ou d'une autre. J'ai confiance que par la grâce de Dieu, mes efforts porteront fruit quelque part. Après tout, Dieu nous a créés et Dieu nous a sauvés, rachetés pour que nos vies soient fructueuses et non pas stériles et que ce fruit soit à sa gloire. Alors voilà pourquoi Jésus dit ici dans notre texte à ses apôtres, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin, voici l'intention de Jésus, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Alors, c'est une très bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus a pour but de nous faire porter un fruit durable à sa gloire. C'est notre thème. Le Seigneur Jésus a pour but de nous faire porter un fruit durable à sa gloire. Nous verrons premièrement les prérequis pour porter ce fruit. Deuxièmement, la certitude de porter ce fruit. Et enfin, la permanence de ce fruit. Prérequis, certitude et permanence. Mais je fais d'abord une précision. Notre texte concerne avant tout les apôtres. Les 12 apôtres, devenus 11, puis devenus 12, puis avec l'apôtre Paul plus tard, devenus 13. Leur vocation et le fruit qui est sorti de leur ministère. Ce texte concerne les apôtres. On ne peut pas juste appliquer ce texte directement à nous sans passer par le contexte. Mais en même temps, il y a dans ce texte des principes importants qui s'appliquent à nous aujourd'hui. À travers le ministère des apôtres, à travers leurs écrits que nous avons encore aujourd'hui, le Seigneur agit en nous par son Esprit pour nous faire porter à notre tour du fruit, du bon fruit à sa gloire. Notre fruit, en quelque sorte, est inclus dans le fruit du ministère des apôtres, puisque tout ce que nous allons produire ou porter comme fruit vient essentiellement de l'œuvre de l'Esprit à travers sa parole. Alors, quels sont les prérequis pour porter du fruit? Il y en a deux ici dans notre texte. Que devaient posséder les apôtres pour exercer un ministère fructueux? Un diplôme en théologie? Un bon modèle de vie chrétienne? Un désir brûlant de servir le Seigneur? Pas du tout. Aucun d'entre eux n'a dit à Jésus, « Seigneur, je viens déposer mon CV. Je désire vraiment te servir dans ce ministère. Et je pense aussi avoir les compétences requises. Alors, peux-tu, s'il te plaît, considérer mon application? Parce que, vraiment, je peux te servir. » Non, pas du tout. Jésus leur dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, oubliez ça, mais moi, je vous ai choisi. » Ce n'est pas vous qui avez eu la bonne idée, la brillante idée de vous engager à mon service. Vous n'aviez même pas les talents, ou le courage, ou le désir de le faire. Vous étiez en fait de pauvres, misérables pécheurs. On ne le voit pas ici dans notre texte, mais dans le contexte de la Bible. Vous étiez de pauvres, misérables pécheurs, sans amour pour Dieu et pour les autres. En fait, vous aviez de la haine pour Dieu et pour votre prochain. Zéro compétence pour le ministère apostolique. C'est moi qui vous ai choisi, sans même évaluer votre CV. Toi, Pierre, suis-moi. Toi, Jean, suis-moi. Toi, Jacques, André, Philippe, suivez-moi. Et je vous ferai pêcheur d'hommes. Non, mais regardez-les, ces apôtres, ces futurs apôtres, ici dans la chambre haute. Regardez leur misère. Ils ont le cœur tout troublé de voir Jésus qui se rend à l'abattoir dans quelques heures. Ils ne comprennent rien à l'œuvre merveilleuse de salut que lui, leur Sauveur, est en train d'accomplir pour eux et pour nous. Comment pourrait-il en être les témoins autorisés, les proclamateurs de cet évangile, eux qui ne comprennent rien ici? Pourtant, Jésus les a choisis pour ce ministère spécifique. Et pour ça, il fallait d'abord que Dieu les choisisse en vue de leur salut éternel, l'élection au salut. Il fallait que Jésus meure sur la croix pour eux, qu'il ressuscite victorieux, qu'il monte au ciel dans son règne, qu'il envoie son Esprit Saint dans son Église, afin de pardonner à ses pécheurs, afin de leur donner un cœur nouveau qui va aimer Dieu et leur prochain. Et alors seulement, ils pourront commencer leur ministère. Je vous ai choisi. Ça signifie choisi pour ce ministère d'apôtre. Ça ne veut pas dire choisi pour l'élection au salut, mais ça inclut, ça suppose la totalité de la rédemption. Jésus ne nous a pas choisis pour être apôtres. Ce texte ne s'applique pas directement à nous, comme j'ai dit. Il n'existe plus d'apôtres aujourd'hui, malgré le fait que certains le prétendent. Nous n'avons plus besoin de nouvelles révélations. La Bible est complète. En même temps, il y a un principe important ici qui s'applique à nous. Nous avons tous reçu une vocation commune, la vocation d'être chrétien, prophète, prêtre et roi, comme j'ai expliqué plus tôt, pour confesser son nom, pour nous offrir à son service, pour combattre le péché dans nos vies. Et en plus, chacun et chacune d'entre nous ici a reçu une vocation particulière, un appel spécifique pour servir en tant que mari ou épouse, parent ou enfant, étudiant, travailleur, retraité bénévole, pasteur, ancien, diacre, trésorier, monitrice, gardienne, musicien, responsable du bâtiment, responsable du ménage, coordonnatrice des repas communautaires, directrice de chorale au camp d'anglais, etc. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus, c'est moi qui vous ai choisi pour exercer ces différents services et ministères. Sans même que vous ayez aucune compétence au départ, ni même aucun désir de me servir par ailleurs. Aucun CV requis. Au contraire, nous étions tous perdus dans nos péchés. Nous détestions Dieu et notre prochain. Comment le servir? Nous sommes des incompétents par nature. Bien sûr, Jésus nous a choisis à travers des moyens différents que ceux qu'il a pris pour choisir ses apôtres. C'est très différent. Mais son choix qu'il porte envers nous suppose encore la totalité de notre rédemption. Ça inclut tout ce que Jésus a fait pour que nous soyons pardonnés par son sang, que nous soyons régénérés et transformés par son Esprit Saint. Et c'est alors seulement que nous pouvons commencer à exercer notre vocation, à aller servir le Seigneur dans une sphère ou l'autre de notre vie. Vous savez, et c'est important ici, notre société dans laquelle nous baignons, dans laquelle nous vivons, nous met beaucoup de pression pour que nous trouvions notre valeur et notre identité même dans ce que nous produisons. Vous avez remarqué ça déjà peut-être? Demain matin, les travailleurs se rendront à l'ouvrage, à l'usine ou au bureau, peu importe. Là où, très souvent, tout ce qui compte, c'est la productivité maximum. Et rien d'autre. Oui, c'est important d'être productif. Mais quand le seul critère d'évaluation d'une personne est son efficacité, et son efficacité qui devrait toujours être plus grande, il y a un problème. Il y a une surchauffe quelque part. Les mamans subissent une grande pression, elles aussi, pour trouver leur valeur, leur identité dans ce qu'elles produisent sur le marché du travail. Et celles qui choisissent de se concentrer à servir dans leur foyer sont tellement dévalorisées. Et peut-être qu'elles sont tentées, elles aussi, de trouver leur valeur dans leur efficacité à la maison. Les jeunes également, à mesure qu'ils avancent dans leurs études, doivent être de plus en plus performants parce qu'il y a de plus en plus de matières à étudier, à connaître, à maîtriser, et ça peut devenir écrasant. Les personnes âgées également, comment sont-elles estimées? Les personnes improductives. C'est tellement triste tout ça. Vous voyez, la valeur d'une personne et même son identité profonde sont mesurées, sont établies en fonction du fruit produit par nos mains. Et si on ne réussit pas, si on échoue, ou bien si notre performance n'est pas à la hauteur des attentes, eh bien, qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous reste? Que valons-nous? Jésus a cette parole libératrice, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » Les futurs apôtres étaient des incompétents, improductifs, le cœur troublé. Ça ne fait rien. Je vous ai choisi. Leur valeur et leur identité n'étaient pas dans leur performance, qui était encore très lointaine. Elles étaient dans le cœur du Seigneur Jésus lui-même. Leur valeur, leur identité étaient dans son regard bienveillant à lui posé sur eux. Je vous ai choisi. Je suis la vigne. Je suis la vigne. Vous êtes les branches. Ne vous tracassez pas pour les fruits. Demeurez simplement dans mon amour. Trouvez votre identité, votre valeur en moi. C'est là où se trouve notre valeur et notre identité, en lui, en Jésus. Selon son libre choix, plein de grâce, avant même que nous ayons porté le moindre fruit. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Quel repos libérateur. Recevez de moi le pardon, la paix, le repos, la vie nouvelle, dit Jésus. Demeurez dans mon amour. Trouvez en moi votre joie sans vous soucier de votre performance. Comme parent, comme mari ou épouse, comme étudiant ou travailleur ou retraité bénévole, comme chrétien engagé dans tel ou tel service dans l'Église ou dans la société. Les fruits viendront en leur temps. La puissance de la sève vient de la vigne et elle produira son effet. Rappelez-vous que je vous ai choisi sans aucun CV préalable par pure grâce. Premier prérequis, donc, je vous ai choisi. Deuxième prérequis, et je vous ai établi. Et je vous ai établi. Les deux prérequis pour porter du fruit reposent sur les épaules de qui? Ils reposent sur nos épaules? Non. Sur les épaules de Jésus uniquement. Je vous ai choisi, je vous ai établi. Comment Jésus a-t-il établi ses apôtres? Il les a pris avec lui pendant 3 ans. Il leur a montré la puissance de ses miracles, la sagesse de ses enseignements. Il les a pris comme stagiaires pour qu'ils se pratiquent. Il les a consolés, protégés dans la tempête, ici dans la chambre haute, pour qu'ils traversent avec lui la pire épreuve de leur vie. Par contre, sur la croix, Jésus a refusé d'être accompagné. Il voulait mourir seul pour accomplir seul notre salut et le, et leur salut également. Et ensuite, les disciples ont été témoins de sa résurrection et Jésus leur a donné son Saint-Esprit. Tout ça pour les équiper parfaitement pour leur tâche à venir, pour qu'ils deviennent finalement compétents et qu'ils portent beaucoup de fruits. Je vous ai établi. Ça veut dire aussi qu'il leur a donné une grande autorité, l'autorité apostolique. Personne aujourd'hui ne détient une telle autorité, ni dans l'Église, ni dans le monde. Bien qu'ils soient morts, les apôtres, par leurs écrits, ont pleine autorité sur nous aujourd'hui, sur notre foi, sur ce que nous devons croire, sur nos vies. Leur autorité s'étend à l'Église entière à travers tous les siècles et dans toutes les nations. Toute une autorité. Je vous ai établi. Comment Jésus nous a-t-il établis, nous? Évidemment, pas du tout de la même manière que les apôtres. Jésus, au ciel, nous établit par sa parole, par son esprit. Et il commence très, 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 très tôt dans la vie de nos enfants. Il le fait à travers les parents, leur enseignement, leurs soins auprès de leurs enfants. Il le fait à travers nos études, nos épreuves, nos voyages, nos travaux, notre écoute de la parole, notre vie et notre service en Église. Il utilise tout cela pour nous former, pour nous préparer à servir efficacement. Et vous, les enfants, vous, les jeunes, vous avez du temps pour découvrir votre vocation, à quoi Dieu vous appelle. Prenez le temps et profitez des occasions que vous avez pour apprendre à découvrir vos talents et chercher la volonté de Dieu pour votre vie. Jésus nous donne aussi une autorité. Évidemment, pas la même autorité que les apôtres. Mais chacun de nous a reçu une autorité dans une sphère d'activité particulière. Même les enfants aux études, vous avez vos livres, vous avez vos cahiers, vous avez vos devoirs. Prenez-en bien soin. Ça vous appartient. Vous êtes autorisé à bien les utiliser, et non pas utiliser les cahiers de vos voisins, mais les vôtres. Les maris ont une autorité sur leur épouse. Les épouses ont une autorité dans leur famille. Les parents ont une autorité sur leurs enfants, et non pas sur les enfants des voisins, évidemment. Nous avons tous, quelque part, une sphère d'autorité, c'est-à-dire, on pourrait dire, une juridiction qui nous appartient et qui nous permet d'exercer librement notre service. Cette autorité nous est donnée par le Seigneur Jésus lui-même pour servir, une autorité de service. Je vous ai établi. C'est très important, je me permets de prendre beaucoup de temps sur ces deux points, sur ce point. C'est très important d'en être convaincu pour bien exercer notre vocation. Par exemple, un père de famille peut s'estimer incompétent en tant que père. Peut-être même que sa femme à côté pense la même chose de lui. On ne sait pas. Peu importe, il est père de famille parce que Jésus l'a établi père de famille. Pas parce qu'il est compétent ou non, pas parce qu'il a plus de sagesse que sa femme. Cette autorité, pourtant, lui appartient en propre, de droit divin. Et donc, ce père peut et doit, librement, avec confiance, en toute bonne conscience, exercer sa vocation de père. Et en apprenant, bien sûr, à devenir meilleur père de famille, bien entendu, par la grâce de Dieu. Et c'est la même chose qui s'applique à n'importe quel autre vocation que l'un et l'autre ici peut avoir. Ceci nous amène à notre deuxième partie qui sera plus courte, la certitude de porter du fruit. Jésus annonce clairement son intention. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. C'est clair. Les apôtres dans la chambre haute sont improductifs. On s'entend là-dessus. Mais peu importe, ça va changer. Jésus leur fait savoir ici son but. Et son but, Jésus va l'atteindre, sans nul doute. Mais pour porter du fruit, les apôtres devaient d'abord faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Afin que vous alliez. Pierre a dû se lever avec courage pour aller prêcher à la foule à Jérusalem. Pierre, ensuite, plus tard, a dû aller visiter Corneille, l'impur, pour lui annoncer l'Évangile. Paul a dû aller pour voyager partout dans l'Empire romain pour prêcher l'Évangile, enseigner la parole de Dieu, établir des églises, solidifier les églises. Et il a été confronté à toutes sortes de dangers. Il fallait que ces hommes sortent de leur zone de confort et qu'ils prennent des risques. Ça prenait du courage pour aller à l'aventure. Le fruit ne vient pas juste comme ça, on reste assis, non. Où trouver ce courage? Dans la promesse de Jésus. Vous allez porter du fruit. Alors, allez-y avec confiance, prêchez. Le fruit dépend du Seigneur, ne dépend pas de votre force, mais allez-y. Alors, comment ce principe s'applique-t-il à nous? Il faut nous aussi sortir de notre zone de confort, ne pas rester dans nos pantoufles, ne pas rester dans nos craintes non plus, paralysés par la peur. Il faut se lever et aller étudier, aller travailler, aller s'occuper du bébé, aller s'impliquer dans un service dans l'Église. Allez-y, avec confiance. Pourquoi? Parce que Jésus nous promet des fruits, à nous aussi. Quand les apôtres ont prêché, il n'y a pas toujours eu de fruits, c'est vrai. Chaque fois que l'Évangile est prêché, il y a deux réactions. Les uns croient dans l'Évangile, ils ont foi, viennent à Jésus. Les autres refusent de croire, rejettent, ont de la haine même pour Dieu. De la même manière, chaque fois que nous nous levons pour aller travailler, pour accomplir notre vocation, pour nous occuper du bébé, pour nous occuper de notre service, chaque fois, il pourra y avoir deux choses, différentes choses. Il pourra y avoir des échecs, oui, des difficultés, oui, des épreuves, oui, mais aussi, très certainement, des fruits. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas nos fruits, ça ne vient pas de notre force, de notre sagesse, ce sont les fruits du Seigneur. C'est lui la vigne, c'est lui qui nous donne la sève et qui produit, par son travail rédempteur, produit en lui du bon fruit, produit en nous, à travers nos mains, ce bon fruit. Nous sommes seulement les branches de la vigne, mais nous portons des fruits, ces fruits à lui. Et même nos échecs, Dieu est puissant pour les transformer en fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Jésus avait un grand but pour ses apôtres, et il a un grand but pour nous, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Soyons-en certains, il va parvenir à son but. Alors, allons-y. Exerçons notre vocation avec joie, avec confiance, dans la liberté. Quels que soient les obstacles, nous porterons du fruit à sa gloire. Enfin, dernière partie, assez brièvement aussi, la permanence de ce fruit. Jésus déclare sa dernière intention, afin que votre fruit demeure, qu'il demeure. Jésus annonce à ses apôtres, votre ministère dans lequel vous n'êtes pas encore engagé va porter un fruit durable. C'est extraordinaire. Et c'est vrai, leur travail a été fructueux pendant leur temps, leur vie et à travers l'histoire, de génération en génération, jusqu'à nous aujourd'hui. Leur ministère apostolique porte fruit dans nos vies et porte fruit partout sur la terre où leur enseignement est prêché et annoncé. Et ce fruit apostolique va durer éternellement. Quand toute l'Église du Seigneur Jésus sera réunie autour de notre Sauveur pour célébrer sa parfaite compétence à lui. Il est compétent pour produire et garder ce fruit pour toujours. Qu'en est-il du travail des non-chrétiens? Leurs entreprises vont-elles porter un fruit durable? Il y a certains fruits d'une certaine valeur, peut-être, que leur travail peut faire, mais malheureusement, ce ne sera pas durable. Tout est vanité pour eux, en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rattachés à la vigne. Ils n'ont pas la foi en Jésus. Ils ne sont pas nourris de sa parole et animés de son esprit. Eux-mêmes n'entreront pas dans le royaume et leurs œuvres mauvaises non plus. Leurs fruits mauvais vont disparaître à jamais. Qu'en est-il des chrétiens et de leur travail? Jésus nous donne la magnifique espérance de porter un fruit durable. Durable! Et c'est peut-être très difficile pour nous à concevoir, à imaginer, à voir. C'est vrai, mais soyons-en persuadés. Même nos petits efforts au quotidien, très imparfaits d'ailleurs, porteront du fruit, si c'est fait par la grâce de Dieu, avec son secours. Peut-être le fruit sera seulement demain, ou l'année prochaine, peut-être dans 3 ou 4 générations même, qui sait? Qui sait ce que Dieu peut faire avec nos faibles mains? Quand vous prenez soin de vos enfants, quand vous leur lisez la Bible, vous priez avec eux, quand vous allez faire un peu de bénévolat, quand vous témoignez de votre foi à un ami à côté de vous, à un voisin, quand vous servez dans l'Église un petit service qui peut-être est peu apparent, il y aura du fruit. Il y aura un fruit même durable. Qui sait? Peut-être que ça produira un grand impact dans la vie d'une personne qui, elle, cette personne, aura un grand impact dans la vie de beaucoup de gens et peut-être pour plusieurs générations à venir. Qui sait? Et au grand jour de la grande récolte, tous ces fruits seront rassemblés autour du Seigneur dans son royaume pour sa gloire, pour célébrer sa parfaite compétence. Où trouvez-vous votre identité, chers frères et sœurs? Où trouvez-vous votre valeur? Dans votre productivité, dans votre efficacité, ou bien en Jésus-Christ et en lui seul? Où est votre joie? En Jésus seul? Alors, par sa grâce, vous porterez du fruit, certainement. Et ce sera un fruit durable dans cette vie-ci et dans la vie à venir pour l'éternité. Ô profondeur insondable de la sagesse de Dieu! Comment comprendre? Demeurons simplement dans son amour. Il nous a choisis, il nous a établis. Levons-nous, allons-y, allons servir comme chrétiens. Allons servir dans nos vocations particulières. Commençons la nouvelle saison en étant confiants que le Seigneur, cette année, nous fera porter du fruit, un fruit durable à sa gloire. Amen.